Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser poursuit sa réflexion sur le silence comme condition ou corruption de la parole publique, avec ce soir le droit au silence, que l'on décryptera avec Ioannis Papadopoulos, professeur à l'Université de Thessalonique. Nous avons abordé jusqu'ici la difficulté de parler, de rompre le silence, comme en témoignent les pressions faites sur les lanceurs d'alerte, ou sur les résistances à l'écoute, la difficulté d'entendre des témoignages dérangeants. Et je vous propose ce soir d'aborder un autre enjeu du silence, inverser en quelque sorte le droit au silence. En effet, si le silence pèse sur la parole publique lorsqu'il est l'objet de pressions illégitimes, lorsque ce silence est organisé par l'ordre civil pour résister aux pressions de la police, il est une garantie des libertés. Et nous allons aborder cette question en compagnie de Ioannis Papadopoulos, qui est professeur en Grèce, spécialiste entre autres du droit comparé. Et je dois à la transparence du débat public déclarer que nous avons écrit un livre ensemble sur précisément la comparaison de la justice américaine et de la justice française, jugée en Amérique et en France. Ça serait en effet un comble dans une semaine consacrée à l'éthique de la parole publique de ne pas commencer par se l'appliquer à soi-même. Bonsoir Ioannis Papadopoulos.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, le droit au silence, nous l'avons dans le droit français depuis peu, depuis 2011, mais en réalité c'est un emprunt à une grande tradition, la grande tradition de common law. Est-ce que vous pourriez nous rafraîchir la mémoire d'où vient ce droit au silence qui est véritablement central dans la tradition anglo-américaine?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une tradition qui commence au XVIIe siècle en Angleterre, dont le cœur de la common law. Et c'est une tradition qui est généralement attribuée, enfin dont la paternité est attribuée à une très grande figure de la common law, qui est le juge Edward Coke, Sir Edward Coke.
Qui s'oppose à la monarchie.
Qui s'oppose à la monarchie et, dans ce cas précis, aux tribunaux ecclésiastiques, aux tribunaux de Chancery. Alors, il faut savoir que depuis le XVIe siècle, à côté des cours des tribunaux de common law, s'est développée peu à peu une autre juridiction, le Court of Chancery, et notamment sous la forme des tribunaux ecclésiastiques.
Qui ressemble beaucoup au droit continental, à notre droit, nous autres en France.
C'est vrai. Alors donc, et notamment la Star Chamber, la High Commission. Alors, ils ont développé une pratique qui est la suivante. Ils déféraient des gens devant ces tribunaux, notamment le Star Chamber, et les obliger à prendre un serment,
à prêter serment.
Et sans savoir de quoi ils seraient accusés.
Donc ils étaient dans un piège.
Oui, c'est un piège. Alors d'où, si vous voulez, le trilemme moral qui est cruel. Le trilemme le suivant: si vous refusez de prêter serment, ça veut dire que vous êtes tout de suite redevable de contempt of court, de mépris de la cour, et vous êtes emprisonné. Si vous prêtez le serment, mais vous mentez sur ce que vous avez fait, c'est le parjure, qui en plus, pour un tribunal ecclésiastique, c'est un péché mortel.
Bon. Qui à l'époque, dans les représentations, on est au XVIIe siècle, tout le monde y croit. La crainte de la damnation est très très
absolument,
puissante.
Oui, tout à fait. Oui. Et le troisième aspect du trilemme, c'est que si malgré tout, alors par peur, vous prêtez le serment et vous dites la vérité, vous incriminez vous-même, vous accusez vous-même.
C'est l'aveu, c'est le problème de l'aveu.
Voilà, vous avouez ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire là, vous violez votre droit moral naturel de préserver soi-même, de préservation de soi.
Comme si la préservation de soi était une obligation qu'on se devait à soi-même.
Absolument, oui, parce que toute personne est sacrée. Donc, et si vous ne préservez pas vous-même, vous offensez la personne de Dieu. Donc, vous voyez quand même la scène, c'est un trilemme cruel. Oui. Et Sir Edward Coke, c'est le premier à avoir trouvé une voie de sortie de ce trilemme en disant que, écoutez, les cours de la common law ne peuvent pas accepter, donc ils émanent ce qu'on appelle un writ of prohibition, un ordre de prohibition, comme quoi tout ce qui ressort des travaux des tribunaux ecclésiastiques après serment et aveu, tout ce qui est incriminateur de soi-même ne peut pas être accepté, va être cassé par les tribunaux de la common law. Alors ça, c'est le coup d'arrêt, le coup de départ de la grande tradition du droit au silence.
C'est intéressant parce que le droit au silence va avec la conception on pourrait dire des droits de l'homme aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne considère pas que la personne est religieuse initialement, et si elle est religieuse, elle a des obligations, y compris par rapport à elle-même, et on ne peut pas l'imposer de créer elle-même son propre malheur.
Absolument.
C'est à la charge.
Oui, mais c'est l'adage. Si vous voulez, il y a l'adage latin qui est toujours valable. Nemo tenetur se ipsum accusare, c'est-à-dire personne n'est tenu de accuser soi-même. Et alors là, du coup, ce vieil adage romain est réadapté à l'aube de la modernité.
D'accord.
Alors, qui est le 17e siècle.
C'est ça, oui, mais c'est quand même la naissance aussi, on y reviendra, de tout un rapport au pouvoir qui attribue des pouvoirs à la personne.
Absolument.
Et qui en retire à l'Église, et donc qui en retire aussi à l'État, et donc qui consacre cette idée d'autonomie individuelle. Alors, ce droit au silence va vite devenir très important, parce que c'est en quelque sorte la principale manière de s'opposer aux prérogatives royale et au pouvoir. Et alors, ce droit va vivre aux États-Unis et va s'épanouir dans le droit américain et la justice américaine.
Oui, c'est assez ironique parce que, si vous voulez, ce droit, comme je viens de dire, est né en Angleterre, dont la terre d'origine, de provenance de la common law, sauf qu'aujourd'hui, elle n'est plus valable en Angleterre, un pays de Galles, c'est-à-dire qu'un jury, on va y revenir, peut tirer des inférences de culpabilité à partir de votre silence.
C'est ça.
Mais il a été transposé.
Alors,
par exemple, aux États-Unis où il a été constitutionnalisé.
On va revenir aux États-Unis, mais ce qui est très important, c'est que le droit au silence, c'est pas uniquement le droit de se taire.
C'est la fameuse
blague. Les enfants n'ont qu'un seul droit, c'est celui de se taire. Et encore, il est question de l'en retirer. Mais ça veut dire que c'est le droit de ne pas tirer une inférence, de pas tirer de conclusion de quelqu'un qui se tait. Ouais. On peut pas dire vous refusez de parler. Donc, c'est que vous n'avez pas la conscience tranquille. Et c'est une obligation qui va être faite à tous les juges de common law de ne pouvoir tirer aucune conséquence de cela. Alors, aux États-Unis, ce droit au silence va prendre une autre forme beaucoup plus précise.
Oui. Alors, déjà, il faut savoir que la règle, le noyau de la règle, ça veut dire, comme vous avez bien dit, ça s'applique pas qu'aux juges d'ailleurs, aux procureurs, aux policiers, à tous les agents de l'État. Alors, c'est-à-dire que, un, vous n'avez pas le droit de commenter le silence de quelqu'un. Ça ne veut rien dire, le silence est zéro, c'est rien, c'est un vide.
C'est une manière de se retirer du débat judiciaire en disant, c'est votre débat, c'est pas le mien.
Voilà. Et deux, que vous n'avez pas le droit, comme vous avez bien dit, de tirer des inférences à partir du silence et des inférences de culpabilité.
Bien sûr.
C'est-à-dire que vous êtes coupable parce que vous cachez quelque chose.
C'est ça.
Alors, donc là, c'est absolument interdit. Et la forme technique, ça prend, ça veut dire que tout ce qui est pris comme déclaration, n'importe quelle déclaration qui n'a pas respecté le droit au silence, va être inadmissible devant la cour. Et c'est une preuve qui peut être supprimée, suppression of evidence.
Mais alors ça, c'est contenu dans le 5e amendement à la Constitution, qui est extrêmement célèbre aux États-Unis, the fifth, le cinquième amendement, et qui, entre parenthèses d'ailleurs, a retrouvé Ioannis Papadopoulos, qui a retrouvé de la vigueur au moment du McCarthyisme.
C'est ça. Oui, parce que le 5e amendement qui dit que personne n'est obligé d'accuser soi-même directement, c'est la grande tradition dont on a parlé, ne s'applique pas qu'au domaine du pénal. Ça s'applique généralement across the board et ça s'est bien appliqué dans les travaux du Congrès devant la commission des Un-American Activities, la commission McCarthy, qui avait traîné dans la boue divers personnages de la vie publique.
Et des intellectuels, notamment.
Notamment des intellectuels, des artistes, etc. En essayant de leur faire la pression pour qu'ils admettent, pour qu'ils avouent qu'ils sont des communistes, ou qu'ils avaient été des communistes, ou qu'ils ont des amitiés communistes. Et là, c'était une pratique assez généralisée, que les personnes prenaient le cinquième, c'est-à-dire qu'ils refusaient de...
C'était un slogan parmi les militants libéraux anticommunistes, slogan c'était « Take the fifth ».
C'était un moyen de préserver sa dignité devant un État qui est omnipotent et qui veut de votre mal, en fait, qui est de mauvaise foi.
C'est ça. Alors, vous avez prononcé, Ioannis Papadopoulos, le terme de dignité, qui me semble particulièrement approprié, parce que, dans le fond, le droit au silence, c'est le fait de ne pas obliger une personne à écraser la distance entre ce qu'elle montre d'elle-même et ce qu'elle sait d'elle-même. Et je crois que cette distinction est tout à fait capitale. C'est ça, la dignité, c'est de garder une distance à soi. C'est de garder la maîtrise de l'apparence qu'on donne, dans l'espace public.
Parfait. Et puis, pour vous compléter, je suis tout à fait d'accord, évidemment, pour vous compléter, c'est que dans un contexte anglo-américain, anglo-saxon, si vous voulez, c'est aussi un moyen, le droit au silence qui est institutionnalisé, constitutionnalisé, comme on a dit, c'est aussi un moyen d'égaliser les rapports de force, je dis, entre un individu, un agent moral, comme on verra, et l'État. Parce que l'État a ce qu'on appelle « overwhelming force », a une surpuissance. Donc aucun individu ne peut vraiment lutter contre l'État à armes égales. Et lorsque l'individu se tait, c'est-à-dire il se retire dans son intériorité, sans inférence, sans commentaire, sans culpabilisation, c'est quand même un moyen de niveler le pouvoir coercitif de la police.
Alors, on est très loin on le verra, des représentations françaises, mais je crois que les auditeurs regardent certainement beaucoup de séries télévisées, ils voient ça tout le temps, et on constate à quel point la justice, mais on pourrait dire, on va y venir, tout l'espace public américain est conçu comme une épreuve, une sorte de joute oratoire ou une épreuve comme au Moyen-Âge, un tournoi, on pourrait dire, entre un sujet et l'État dont les forces sont équilibrées. Mais alors, n'anticipons pas. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y a un tournant majeur dans les années 60.
Oui, alors en 1966, la Cour suprême, dans l'époque des Civil Rights, sous la férule du président de la Cour, Earl Warren, une grande figure, a émis une décision controversée d'ailleurs, 5-4, les juges sont 9. Donc la fameuse décision Miranda...
Monsieur Miranda
contre Arizona. Voilà. Alors... ce monsieur Miranda, il avait commis un délit, donc c'était un type qui aimait la bagarre. On l'a traîné dans le commissariat de police, et là, après l'avoir cuisiné, mis la pression pendant 2-3 heures, il s'est finalement résolu à signer un aveu, comme quoi il avait kidnappé, il avait violé une jeune femme. Sauf que cet aveu était quand même directement, si vous voulez, le résultat de la pression policière. Et donc cette espèce est allée jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême a émis la fameuse règle de Miranda, la règle prophylactique, comme on verra, d'après laquelle le cinquième amendement à la Constitution américaine interdit à tout agent de l'État, comme on a dit, d'utiliser les déclarations d'une personne qui sont faites dans une double contexte, sont faites lorsque cette personne est mise en garde à vue, pouvoir restrictif de sa liberté d'aller et venir, et pendant un interrogatoire. Custody, garde à vue, interrogation, interrogatoire. Alors tout ce qui est pris comme ça, sauf s'il est averti, le fameux avertissement Miranda, sauf s'il est averti de son droit au silence, que tout ce qu'il dit Pour être jugé contre lui en cour, et on son droit au conseil, c'est-à-dire on droit à l'avocat.
C'est ça. Tout ça va avec. Tout commence. Avant quoi que ce soit, la police doit dire, attendez, là ça commence à tourner au vinaigre, on vous suspecte, donc on va continuer cet entretien, mais de manière beaucoup plus coercitive, et on vous rappelle vos droits, le droit de vous taire, et le droit de choisir un avocat. Ce que, encore une fois, les téléspectateurs voient tous les jours dans les séries.
C'est l'avertissement Miranda.
C'est l'avertissement Miranda, du nom de ce monsieur Miranda, et qui a eu d'ailleurs un destin tragique, ce monsieur Miranda, parce qu'il a gagné son procès devant la Cour suprême.
Il a gagné son procès, évidemment, donc il a eu un autre procès après, parce que l'arrêt d'Arizona était cassé, donc il a été remis à l'épreuve. Il a été encore condamné à partir d'un témoignage un peu douteux. Et bon, après quelques années, 2-3 ans, il s'est mis en liberté conditionnelle, en probation. Il a regagné son quartier où il gagnait un peu sa vie modestement en signant des autographes sur la carte des avertissements Miranda. Parce que les policiers, ils ont une carte qu'ils sortent.
Ils lisent
ces fameux avertissements. Alors, il signait que l'autographe, etc. Et puis, quelques ans après, il s'est mis dans une rixe dans un bar. Donc, et quelqu'un l'a assassiné par arme blanche. Alors, ce monsieur-là, l'autre, qui était le suspect, il a gardé un silence total et faute d'autres preuves, il a été
relaxé. La personne qui avait tué Miranda s'en est sortie grâce à Miranda.
C'est l'ironie.
Mais ça va prendre avoir un succès considérable, cette affaire Miranda, parce que c'est extrêmement populaire parmi les Américains. Les avertissements Miranda, les Miranda Warnings, c'est extrêmement populaire parce que c'est considéré par le citoyen américain lambda comme la garantie des garanties, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Même une figure conservatrice comme le juge Rehnquist, qui était président de la Cour suprême pendant longtemps, a écrit dans un arrêt 7 contre 2. Le seul dissident, c'était Scalia, qui est décédé maintenant, et Thomas. Alors, il a écrit que même si nous, on a eu d'arrière-pensée, etc., c'est désormais tellement ancré dans les pratiques que ça fait partie, là, qui dit ça, je le cite mot à mot, ça fait partie de notre culture nationale. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir l'Amérique
sans les Miranda Warnings, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que Nixon avait fait campagne en disant « Je reviendrai sur les Miranda ».
Oui, Nixon, il faut se remémorer un peu, il gagne les élections présidentielles en 1968, donc 2 ans après l'arrêt Miranda, 1966, avec entre autres la promesse, non pas qu'il reviendra dessus parce qu'il n'a pas de pouvoir, mais qu'il nommera des juges à la Cour suprême qui vont faire tout le nécessaire pour diluer et éventuellement, enfin à la longue, abolir la règle Miranda, ce qui n'a jamais été fait évidemment.
Bien sûr. Donc c'est une consécration, y compris par les conservateurs, et maintenant c'est installé dans la culture américaine. Mais Ioannis Papadopoulos, est-ce que vous pourriez revenir sur finalement pourquoi c'est aussi populaire pour les Américains? C'est parce que c'est une mise en scène du contact le plus brutal avec l'autorité et une sorte de scène des droits civiques pour les citoyens américains.
Alors voilà, donc on entre un peu dans la partie la plus, si vous voulez, philosophique, théorique, qui est, je trouve, stimulante. Si on réfléchit un peu, je trouve trois traits qui sont évidemment qui complètent l'un l'autre. Le premier, c'est comme vous venez d'indiquer Antoine Garapon, la mise en scène. Dès qu'il y a une rencontre entre la police et un citoyen, qui n'est pas une simple rencontre informelle où on demande à chacun s'il a vu par exemple tel ou tel crime, etc., mais c'est une conversation, je dirais, à l'amicale. Mais dès qu'on rentre dans un cadre coercitif, vous n'êtes plus libre de vos mouvements.
Et même plus libre dans l'entretien lui-même.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est plus est-ce que vous avez vu, est-ce que vous n'avez pas vu quelqu'un qui courait avec un sac à main, c'est est-ce que ça serait pas vous, quoi.
Voilà. Dès qu'il y a un soupçon, que vous pourriez faire des déclarations qui vous incriminent vous-même, qui vous accuser. Alors, dès qu'il y a donc un contexte comme ça, mais c'est notionnel, ça n'arrive pas dans la réalité, mais déjà l'espace normatif, si vous voulez, change. Ça prend une autre, ça change, si vous voulez, de scénographie, de mise en scène.
On rentre dans la scène d'une confrontation d'un citoyen aux autorités.
Voilà. Donc, où les autorités ne sont plus les amis du citoyen, oui, mais ce sont quand même des gens qui sont potentiellement des adversaires.
C'est ça. Il passe du statut de protecteur à celui d'enquêteur.
Voilà. Donc, et il faut, encore une fois, mettre à plat, niveler un peu, égaliser un peu les armes.
Et en fait, le moment où tout va virer, c'est lorsque le policier dit les fameux Miranda warnings,
oui,
l'avertissement Miranda.
Il est obligé de le dire dès qu'il y a un contexte de custody, c'est-à-dire de mise en garde, de restriction de la liberté d'aller venir d'un bonhomme, et dès qu'il y a même des actes ou des paroles, mais aussi des actes qui peuvent ressembler fonctionnellement à un interrogatoire. Mm-hmm. Même si ce n'est pas l'interrogatoire formel dont le commissariat de police, hein, dont la salle spéciale pour ça, etc. Même dans la rue.
Donc c'est une parole qui dessine un espace en quelque sorte.
Voilà,
c'est un moment où c'est un moment qui dessine un espace et là tout change. Là une fois qu'on a prononcé que
c'est le deuxième trait.
C'est le deuxième trait.
Voilà. C'est l'illocutoire, ce que j'appelle l'illocutoire. C'est évidemment, ça provient de la philosophie analytique. L'illocution, c'est quoi? C'est une locution, c'est un verbe, c'est une parole qui a un pouvoir normatif. C'est-à-dire que vous changez le monde simplement en proférant des mots.
Oui, mais sauf que Ioannis Papadopoulos, ici, vous changez le monde en ne disant rien.
Ouais. Alors, c'est ça. Sauf qu'il faut que vous... C'est un paradoxe. Il faut que vous disiez, que vous ne direz dorénavant plus rien.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il faut...
Il faut le dire, je me tais. Je choisis de me taire.
Il faut dire... C'est la jurisprudence américaine, depuis 2010 notamment. Il faut dire, il faut revendiquer son droit au silence. C'est un paradoxe. Il faut parler, prendre la parole, pour vous mettre dans cette mise en scène, dans le rôle de quelqu'un qui ne va plus parler à la police, ou dont l'avocat va parler à sa place.
C'est ça.
Et donc il va être cessé de son avocat.
Cette scène est extraordinairement formelle.
Absolument.
La formule des Miranda Warnings, c'est une formule comme à Rome, c'est une formule consacrée, voire sacrée.
C'est ça.
Et lui doit répondre, je refuse de parler, je me tais, mon avocat et maître machin.
Voilà. Et donc, d'où le troisième trait, après la mise en scène, la scénographie, qui change l'espace, qui change un peu les rôles moraux des agents qui se meuvent dans l'espace, les agents étant la police et le suspect, l'illocutoire, qui change la relation, qui fait entrer dans un nouveau contexte, voilà. Et le troisième, c'est le formalisme qui est la réponse de l'État, les réponses des agents publics à l'illocutoire, à la parole qui est proférée.
Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qui est particulier, et encore une fois on le voit dans les séries télévisées, c'est très spectaculaire d'ailleurs, c'est qu'on introduit une formalité très très rituelle,
oui,
dans un espace ordinaire, dans l'espace quotidien, dans l'espace de la cité.
C'est même, je dirais, une protocolisation du quotidien. Parce que dès que la police... Oui. est averti par l'illocutoire que vous ne voulez plus parler ou que vous voulez un avocat qui parlera à votre place, elle met tout de suite en place une formalité sous forme de protocole. Et bon, dans beaucoup de juridictions, beaucoup d'États, la pluralité d'États, il faut maintenant que vous signiez en bonne et due forme un papier comme quoi, un, vous avez compris, c'est-à-dire que vous êtes en connaissance de cause de vos droits, que vos droits vous ont été lus et que vous les avez compris, en connaissance de cause, et que volontairement, par exemple, si vous voulez parler, volontairement, vous refusez de prendre le cinquième, to take the fifth, c'est-à-dire de se murer dans le silence. Alors, tout est très, très formalisé.
Oui. Alors, c'est amusant d'ailleurs, parce que dans les juridictions américaines, quand on va on comparer devant le juge, et on va refaire ça pour savoir si on plaide coupable ou non coupable, c'est la même structure. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point le juge dit formellement, est-ce que vous vous déclarez coupable ou non coupable. Et après, il éprouve le besoin de le dire en argot, parfois extrêmement cru, pour être sûr que la personne a compris, en disant « bon, t'as compris mec, tu sais ce que tu risques, etc. » Bon, ouais. Et parce que c'est un point extraordinairement important pour la suite de l'affaire.
Funk. They didn't watch you, Davis. We know what you're doing. Got that girl in there. Smoking that marijuana. Got you been laying for you.
Lay for some of this here. What you got? What's that? Cuffing?
Handcuffs. Handcuffs. Made especially for you.
Handcuff some of this down here.
You're the snorers. We know you.
Wait a minute, I gotta do something for these.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours ce soir avec Ioannis Papadopoulos pour parler du droit au silence du 5e amendement. Ioannis Papadopoulos qui a choisi de nous faire écouter ce morceau de musique de Miles Davis et qui s'appelle
You're Under Arrest.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire le contexte?
Le contexte, c'est que, si vous voulez, Miles est à la fin de sa carrière, il est assez âgé, mais il est toujours très vivant, et il est de plus en plus sensibilisé à la jungle urbaine du ghetto, à la violence policière contre les Noirs, aux provocations de tous les jours qu'il voit devant sa, par sa fenêtre, il dit. Et donc, il a décidé de faire encore un grand tournant dans sa carrière, encore une révolution, en insérant des scènes et des sons de la ville, des sons de la ville comme celle que nous avons vue, la voiture de police, les sirènes, etc.
Vous êtes le coup de frein.
Le coup de frein. Vous êtes sous arrestation, etc. Et pour sensibiliser un peu, pour mettre en valeur ce qui se passe, que l'expérience américaine, afro-américaine, est diverse et différente de l'expérience du blanc de la classe moyenne ou supérieure. Donc, c'est une utilisation, je pense, à mon sens, de la culture, de la tradition de Miranda, de la tradition de la protection, la règle prophylactique, on reviendra, par le droit au silence. Il utilise donc cet apparat pour la transfigurer et mettre expliquer que, si vous voulez, dire que ça se passe pas comme ça en réalité.
Oui.
Il y a un décalage.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça la culture populaire. C'est quand Miles Davis fait un morceau de musique, une chanson, à partir de bruits de la ville et de bruits, le coup de frein, la police, la sirène, les cliquetis, etc. Et donc, tout le monde aujourd'hui, et peut-être même au-delà des États-Unis, se rend compte est capable de reconstituer une scène, cette scène d'une rencontre rugueuse, difficile, avec les policiers et plein d'excès et plein de débordements d'ailleurs. Pourquoi prophylactique, vous avez pensé?
C'est un mot grec.
Oui.
Donc prophylactique,
c'est pour ça que vous l'aimez.
Oui, je suis grec moi-même. Alors prophylactique, ça veut dire qui préserve, qui protège. Donc c'est une règle protectrice. Mais protectrice par rapport à quoi et en faveur de qui? Protectrice en faveur évidemment du suspect et par rapport à tout l'environnement coercitif que la police peut mettre en place. D'où le morceau de Miles Davis. Parce que la police peut quand même, c'est pas simplement la force brute de la police, c'est aussi l'aura de l'État.
Et puis la mise en scène, on est frappé.
La mise en scène.
C'est pour ça d'ailleurs que c'est une partie des raisons du succès des films américains ou des séries américaines qui mettent en scène la police, parce que la police elle-même se met beaucoup plus en scène que ce qu'on voit en France ou dans des pays continentaux. Il y a toute une allure du policier avec son uniforme impeccable, les plis saillants, les lunettes de soleil. Il y a tout cet apparat symbolique destiné à impressionné. Et quand on est dans les faubourgs de Chicago ou de Baltimore, c'est les rapports de race américains qui sont mis en scène de manière terrible, tragique, on pourrait dire, à travers cette scène. Et les Miranda Warnings viennent essayer d'introduire un petit peu de droit, Yanis Papadopoulos, introduire un petit peu de droit dans cette violence.
Oui, parce que, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, que la police américaine, beaucoup plus que d'autres polices nationales, enfin les polices américaines, parce que vous savez que les polices ne sont pas, enfin le FBI est national, mais bon, ont une capacité d'impressionner. C'est ça que, c'est-à-dire tout l'apparat, toute cette mise en scène est là pour vous mettre dans une position d'infériorité d'emblée, hein. D'ores et déjà, vous êtes inférieur. Mmh. Et vous avez quand même de l'intérêt à collaborer avec nous, parce que sinon, Dieu sait quel malheur vous trouvera. Mmh. Alors, parce que la police est très impressionnante avec tout ce qu'elle utilise comme
et
appareil.
Et puis, parce qu'on est dans une culture dans laquelle on rigole pas tellement avec la police. On peut être juge à la Cour suprême, ou on peut être sénateur. Certains en ont fait des frais, d'ailleurs. Quand on est aux prises avec la police, on rigole plus, passez-moi l'expression.
Vous souvenez sans doute d'un Français, homme politique fameux, qui était traîné quand même dans une parade, je veux dire, indigne, parce que la police devait faire son théâtre, si vous voulez, de l'impressionner. Bon, alors, donc, règle prophylactique, donc règle protectrice, pourquoi ? Parce que dans un tel contexte, les gens qui ont des capacités mentales, physiques,
sociales,
intellectuelles, capital social réduit, ils sont vraiment très impressionnés par la police, et donc parfois, et c'est avéré par des recherches, et parfois qu'ils sont innocents, ils ont une tendance à être subjugués, à être sous une emprise policière, et avoués. Alors, les Miranda Warnings, les avertissements Miranda, sont là, d'après la justice, la Cour suprême américaine, pour protéger tout le monde, à la fois les coupables et les innocents, qui peuvent être traînés dans une incrimination de soi-même par emprise de la police.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit la culture américaine, ce show-off permanent des autorités, notamment de la police, mais on voit aussi l'empreinte de la culture protestante, c'est-à-dire qu'on stimule. Quelle est la réaction ? C'est de stimuler l'autonomie de la personne, la responsabilité de la personne.
Voilà. Donc c'est, si vous voulez, ce que j'appelle l'agence morale, agency. Enfin, chacun est un agent moral. Alors ça, c'est très protestant. Vous n'êtes pas obligé de simplement d'endosser des us et coutumes d'une société ou d'un groupe ou d'une collectivité. Vous êtes une personne individuelle, et donc ça veut dire que vous pouvez vous revendiquer comme tel, prendre la parole par les locutoires et imposer aux autres votre moralité, c'est-à-dire votre autonomie, je dirais, de la volonté et morale. Alors, le Miranda Warning, c'est le 5e amendement, c'est une façon de faire ça. C'est-à-dire que il vous place dans une situation par cette mise en scène où vous êtes responsable de votre propre destin.
La mise en scène flatte rehausse la capacité morale, l'autonomie personnelle, l'autonomie morale de l'agent. Hein, c'est take the stand, hein, prenez le, montez sur l'estrade et dites quelque chose qui vous engage, et une véritable responsabilité. Si on compare avec les représentations françaises, on est très très loin. La représentation des rapports entre les autorités et le citoyen en France, qui est aussi empreinte de droit, mais c'est beaucoup plus un droit pastoral, quoi. C'était un pouvoir bienveillant de la part. C'est pour ça que, d'ailleurs, Dieu sait si Foucault a abondamment écrit là-dessus. C'est-à-dire l'aveu, comme les Miranda Warnings, montre deux types de liens politiques, civiques, totalement différents. Yohannis Papadopoulos.
Oui, c'est très bien, parce que au lieu d'une police qui est le bras armé de la communauté politique et qui essaye de façon bienveillante, pastorale, comme vous avez bien dit, de vous réintégrer dans une communauté, là, vous avez une coupure, une séparation, comme dirait Ricoeur, il dit ça très clairement, et puis évidemment Foucault, une séparation entre l'individu qui s'assume moralement soi-même par son droit au silence et son droit à l'avocat, il assume son destin, et de l'autre côté, la personnification de l'État qui est la police ou le procureur et après le juge. Donc il y a une vraie séparation entre les deux.
Oui, et puis, alors, c'est un acteur stratégique, il faut qu'il fasse un pari. Dans le fond, il faut que, dans un laps de temps extrêmement court, il fasse un pari. Est-ce que la police va avoir suffisamment de choses? Quelle partie je prends? Et puis, il y a une sanction immédiate, c'est-à-dire que ces paroles proférées lors de l'arrestation et puis plus tard au cours du procès, Ioannis Papadopoulos, elles sont très lourdes de conséquences, ah oui. ce qui change là aussi de l'application du droit en France.
Oui, parce que quand on est agent moral, tout ce que vous dites, dans une mise en scène encore une fois formalisée, hein, oui, qui n'est pas la banalité quotidienne, tout ce que vous dites est lourd de conséquences. Donc il faut quand même bien comprendre la culture américaine, qui est très protestante là-dessus, que tout ce que vous dites est fait, a toujours des conséquences. Vous pouvez pas faire n'importe quoi à la légère, parce que dès qu'une mise en scène formelle est mise en place, ben vous avez quand même des conséquences à assumer, ou des gains à escompter,
à espérer,
des
oui,
profits à
c'est
espérer.
Ça. Mais, voilà. Mais c'est très différent, parce qu'en France, on a aussi un droit au silence. On peut rien dire, on peut se taire devant la police. Et puis on peut dire, on peut parler aussi. Et puis on se peut dire, oui, j'ai dit ça, mais c'était sous le coup de la pression. J'ai été victime de violences policières. Et puis on peut changer plusieurs fois au cours du procès. Et c'est lié à cette asymétrie, à cette forme un peu paternaliste du pouvoir en France, qui fait que le sujet est moins responsable. Il y a moins de sanctions. Finalement, il y a moins de sanctions dans ce domaine, comme dans tant d'autres, de sa prise de position publique.
Oui, et je peux vous donner un exemple très concret d'une différence entre le droit américain et le droit français. C'est vrai qu'à partir de 2011, le droit français s'est assimilé sous le coup de la pression internationale, la Convention européenne des droits de l'homme. Or, il y a encore des particularités qui ressortent et qui différencient les deux cultures. Je songe notamment à une. Lorsque vous êtes prévenu, vous êtes passé maintenant du statut du suspect au statut d'accusé, puis vous êtes prévenu, vous êtes en jugement, vous êtes devant le tribunal lors du procès. Alors, pour le code de procédure pénale français, si vous êtes donc un prévenu, vous êtes toujours tenu de faire des déclarations devant la cour, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de vous murer dans le silence. Vous êtes tenu. Sauf que lorsque vous déclarez quelque chose, vous répondez à une question de la cour, vous n'êtes pas sous serment. Donc vous ne risquez pas de commettre parjure. Par contre, dans le contexte américain, lorsque vous êtes defendant, le prévenu, accusé, vous avez un droit total. Je veux dire, intégral au silence. Évidemment, votre avocat parle pour vous. Mais si vous voulez répondre, vous souhaitez librement, encore une fois, en connaissance de cause et volontairement, vous souhaitez vous positionner dans le débat. Par exemple, vous souhaitez répondre à des questions qui ont été soulevées pendant le procès, pendant le débat. Vous devenez un témoin et vous
prêter
serment. Donc il n'y a plus la protection de la cinquième. Vous voyez, les rôles sont très formalisés.
Ils sont extrêmement formalisés. Mais alors vous avez dit, en passant, Ioannis Papadopoulos, quelque chose qui est important et qu'on a du mal à comprendre ici, et qui est d'ailleurs peut-être choquant, c'est l'idée de coopérer avec la police. Ouais. C'est-à-dire que en France, on coopère pas avec la police. On peut mentir, on est dans un rapport asymétrique, postulé comme tel, assumé comme tel de part et d'autre, et on se bat, finalement, on se démène dans les institutions. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là, on ne coopère pas. Alors que, immédiatement après, quelqu'un qui accepte de parler, la police peut, aux États-Unis peut lui dire, bon, ok, tu vas parler, tu vas nous donner des gens, et tu vas coopérer avec nous, et si tu coopères bien, eh ben, t'auras une ristourne, voire on va s'arranger pour que ça se passe bien pour toi.
Absolument. Alors là, je permettais de dire que j'ai écrit un petit ouvrage sur le plea bargaining.
Oui, c'est ça, oui.
Donc voilà, c'est l'autre face de l'agent qui est moralement autonome. C'est l'autre face de l'autonomie morale, de l'individualité. C'est que, si vous voulez, un individu, un agent moral, fait aussi, à chaque moment, fait un bilan coût-avantage. Mmh. Il raisonne, il calcule. C'est un être calculateur. Mmh. Donc, s'il croit...
C'est un homo economicus.
C'est un homo economicus, voilà, un être économique. Ouais. Donc, si, dans sa tête, il forme l'opinion que la police a suffisamment de preuves pour me faire condamner quand même, vous avez tout intérêt à collaborer avec la police, évidemment, avec une contrepartie...
C'est ça, c'est pas foutu. Vous avez encore des choses à négocier.
Contrepartie économique. C'est-à-dire, par exemple, vous basculez dans un autre crime qui est plus léger, donc vous allez faire moins de temps en prison, ou vous serez mis sous immunité si vous donnez vraiment des noms qui sont haut placés, et ça va quand même aider la police à détruire toute une organisation, par exemple mafieuse.
C'est ça. C'est comme ça que fait la police d'ailleurs, parce que
c'est transactionnel.
Parce qu'on pourrait dire la police américaine elle est désarmée vu que les gens ont le droit de pas parler. Et en fait il faut comprendre qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de ne pas parler, mais qu'il y a aussi une manière de les appâter. Il y a des incitatifs. Oui. Procéduraux.
Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a des scènes où les gens, les suspects, mettent tout de suite en valeur, ils déclarent qu'ils veulent prendre leur droit au silence, leur cinquième amendement. Vient leur avocat. L'avocat est là, il essaye de poser une ligne de défense. Et tout d'un coup, un policier vient, un supérieur policier, ou le procureur lui-même, il vient dans la salle d'interrogatoire en proposant un deal. Un bargain, un deal comme quoi, songez-y parce que c'est quelque chose qui vous intéresserait et votre avocat aussi. Vous avez le droit de conférer avec votre avocat. Alors le deal est le suivant. Nous avons telle preuve contre vous. C'est très explicite, c'est très cru. On vous balance les preuves qu'on a déjà ramassées contre vous. Et par contre, si vous collaborez, on vous propose une alternative plus légère. Enfin, on vous atténue la peine que vous pouvez rationnellement escompter. Mmh. Et du coup, des gens comme ça, ils raisonnent et ils disent « Ok, je prends le deal ». Je me débarrasse donc de la ligne de défense que j'avais jusque-là avec mon avocat. Évidemment, si l'avocat ne veut pas, il se débarrasse de l'avocat lui-même et il passe aux aveux sous couvert du deal, enfin de la transaction de la police. Et la police tient toujours parole. Le procureur tient toujours parole.
Ça, c'est la clé pour que le système marche.
C'est-à-dire que quand le procureur ou un policier supérieur propose un deal comme ça, c'est du sérieux. C'est pas simplement un stratagème pour vous faire parler.
C'est-à-dire que ce statut de la parole publique, il est partagé par tous, par l'accusé, par également la police, et on ne s'amuse pas à revenir sur sa parole parce que ça casserait.
C'est une mise en scène. Chacun a un rôle, et il a un rôle à réciter.
Bien sûr. Alors on voit au passage, Ioannis Papadopoulos, l'unité d'une culture, parce que ce que vous décrivez est très proche du deal commercial. Et de l'homo economicus et de cette vision fondamentalement économique des rapports sociaux, des rapports amoureux, familiaux, fiscaux, tout ce qu'on veut. Et qu'on va voir, bien sûr, porter leur point extrême dans ce contact avec la police, dans l'arrestation.
Oui, c'est-à-dire que le domaine du contrat, de la transaction et du consentement mutuel des volontés n'épargne aucun domaine, ni même le domaine qui est placé au cœur de l'État, qui est le pénal.
Donc finalement, on pourrait dire, Ioannis Papadopoulos, dans cette réflexion générale de cette semaine sur le silence et la parole, le droit au silence, c'est aussi, un poids spécial, particulier, accordé à la parole publique.
C'est ça, tout à fait. Parce que le silence est vraiment l'autre face de la médaille de la parole. Vous devez peser votre silence et votre parole, puisque vous avez un rôle, ce rôle est endossé, c'est public, c'est officiel, dans une mise en scène, et les mots ont un pouvoir que nous, on ne peut même pas imaginer.
Et d'ailleurs, on voit à quel point la parole ou le silence ont quelque chose à voir avec la mise en forme sociale.
Oui, mais c'est la même mise en forme sociale elle-même, par le langage, évidemment, des acteurs.
Merci beaucoup, Ioannis Papadopoulos.
Merci, Antoine Carapon, de m'avoir invité.
Matière à penser, Ioannis Papadopoulos, Delphine Bedet, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Justine Wild, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous demain avec Agnès Spiekel pour terminer cette semaine sur Le silence chez Camus. À demain!